qui est une amie proche, vraiment. Emmanuel, je veux t'honorer à mon tour, parce que c'est elle qui m'a honoré la semaine dernière, c'est vrai. Mais voilà, moi, ce que j'aime chez toi, Emmanuel, c'est ta persévérance et c'est combien tu prends soin de chaque chose. C'est vrai que t'as un cœur pastoral, t'as un cœur tourné vers les autres. Et combien de fois je t'ai vu touché par ceux qui souffraient, par ceux qui passaient par des moments difficiles, toujours avec Mathieu. Vous avez une petite attention pour ceux qui sont oubliés, pour ceux qui sont seuls, pour ceux pour qui on n'a pas forcément pris du temps. Et c'est vrai qu'avec Mathieu, vous avez ce ministère vraiment de prendre soin des gens et même prendre soin de la famille. Vous portez vraiment ce ministère pour la famille, pour les enfants. Je pense que vous êtes des modèles pour beaucoup. Et vraiment, je voulais t'honorer cet après-midi et te dire merci pour ton cœur pour les autres. Voilà.
Waouh. Ah, il y a des participations qui sont en train d'être organisées. Merci. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire un diaporama, mais c'est pas grave, on a tous des oreilles pour entendre. Je sais pas si j'aurai le temps, et c'est un peu tard, peut-être je le ferai en deux parties, on verra. Oui, il faut enregistrer, mais tout est sous contrôle, c'est bon. Merci Audrey. Alors, comme vous le savez, il y a quelques semaines, on a démarré une série de messages sur la culture qu'on veut vivre ici à Connect. Mathieu vous a expliqué qu'est-ce qu'on entendait par culture. La semaine dernière, Olivier nous a brillamment parlé de l'authenticité. À regret, on n'a pas pu enregistrer le message, mais peut-être qu'il aura l'occasion de nous le repartager ou de le réenregistrer pour le mettre sur le site, parce que c'était vraiment, waouh, excellent. Et donc, comme vous le savez, on a quatre valeurs ici à Connect qu'on a envie de vivre. Donc l'authenticité, l'honneur, le courage et la famille. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la famille. Et même si c'est une valeur un petit peu différente de l'honneur, du courage, hein, c'est pas dans le même registre, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de vivre ici à l'Église. Et vous savez, l'Église, elle est régie par, vous savez, on est une association, 1905, 1901. Il y a tout un côté organisationnel dans l'Église quand on démarre une Église qui est pour être dans les règles avec la loi et tout, c'est important. Il y a on organise beaucoup de choses aussi et c'est super. Et du coup, ça, c'est hyper important, mais on n'a pas envie d'en rester juste là, d'être juste une organisation, d'être juste dans le fonctionnement pour que ça se passe bien, même si c'est très important. On veut pouvoir vivre les uns avec les autres comme une famille, parce qu'on est avant tout une famille. Et d'abord, je voulais vous parler du fait que la famille, elle, c'est le plan de Dieu. Et pourquoi ? Alors, j'ai réfléchi un peu. Je sais que Mathieu il avait fait un message il y a un ou deux ans sur cette valeur de la famille. On peut dire plein de choses, mais moi j'ai passé du temps avec Dieu cette semaine, puis j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et puis en premier, c'est ça qui m'est venu, c'est que la famille, c'est l'idée de Dieu. Et c'est même, j'ai envie de dire, l'essence même de Dieu. Quand on voit Dieu, qui il est, dans qui il est, sa nature, c'est rien que quand on regarde ça, c'est la famille. C'est-à-dire, Dieu, il est Père, il est Fils, il est Esprit. On peut parler de la famille céleste quand on parle de ça, la Trinité. Ce n'est pas un mot qui existe dans la Bible, qu'on trouvera dans la Bible. Hein, c'est nous qui avons posé un mot là-dessus. C'est un grand mystère. On a du mal à réaliser concrètement ce que ça veut dire. Mais c'est important de réaliser que Dieu, il est Père, il est Fils, il est Esprit, et ça, c'est la famille céleste. C'est pour ça que je dis Dieu, c'est l'essence. La famille, c'est l'essence même de Dieu, c'est qui Dieu est. Dans Genèse 1, premier chapitre de la Bible, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et le mot hébreu qui est utilisé pour désigner Dieu, c'est Elohim, et Elohim, c'est un nom pluriel. Voilà, et puis il dit à notre image, à notre ressemblance, pas à mon image. On est créé à l'image de Dieu, mais à l'image de Dieu pluriel. Et De la même façon, dans Genèse 1, verset 2, le deuxième verset de la Bible nous dit « L'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux ». Il y avait Dieu, avant la création du monde, Dieu était là, mais l'Esprit de Dieu était là, Jésus était là aussi. Jésus, il n'est pas arrivé tout d'un coup au Nouveau Testament, il était là bien avant. Dieu est à la fois un et trois. Et en créant Adam et Ève, Dieu crée la première famille sur la terre. Et il les missionne, il leur dit « portez du fruit ». Multipliez-vous, hein, et il a créé un couple, mais un couple pour créer une famille. Donc Dieu, il manifeste ça concrètement sur la terre en créant Adam et Ève. Dans l'Ancien Testament, on lit souvent Dieu qui se présente aux hommes comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Encore un Dieu de la famille, pas le Dieu d'une génération, il se présente sous le Dieu de trois générations. C'est intéressant de noter ça, comment Dieu se manifeste. Et puis, on voit après aussi dans l'Ancien Testament, il fait alliance avec un peuple, avec une famille, avec les hommes sur la terre par des familles, des tribus, et de génération en génération. Hein. L'autre fois, c'était Olivier, je crois, qui nous parlait de la bénédiction qui se répand sur 1000 générations. Dieu sait. Souvent, nous, on est limités, on voit, voilà, j'ai mes parents, mes grands-parents, mes enfants, mes petits-enfants, peut-être je verrai mes arrière-petits-enfants, puis ça se limite à ça, et c'est normal. Hein. Mais Dieu, il voit au-delà, il voit bien au-delà. En envoyant Jésus sur la terre, il ne le fait pas apparaître tout d'un coup comme ça, il aurait pu, mais non, il l'envoie dans une famille. Et même Jésus, quand il était sur terre, il s'est entouré de personnes. Il a été tenté au désert seul, ça a été une période de 40 jours, mais il s'est entouré après de disciples. Ça aussi, c'était sa famille sur terre. Donc ça, voilà, c'était un peu pour vous dire, Dieu, il opère sur terre, il intervient sur terre à travers la famille. C'est la façon dont il se manifeste. Et c'est un contexte idéal pour son intervention. Et son action durable. Pourquoi ? Parce que dans une famille, on transmet. Il y a des choses qui se transmettent. Il y a des bonnes choses, il y a des héritages. Il y a aussi des choses, parfois, dont on se passerait bien, mais grâce à Jésus, hein, tout ça peut être racheté. Je vous renvoie au message de Simon pendant la conférence, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter. Et je voudrais vous lire Éphésiens 2, versets 19 à 22. « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. » ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alors dans ce passage, je n'ai pas mis tout Éphésiens 2, mais en fait Paul il parle ici, il s'adresse aux Éphésiens qui ne sont pas juifs d'origine et il leur dit « Par votre union avec Jésus, vous êtes ajoutés à la famille de Dieu, au peuple de Dieu. » C'est valable pour nous aussi. On fait partie de la famille de Dieu. On est devenus concitoyens des membres du peuple saint. On est intégrés à une construction pour former une demeure où l'Esprit de Dieu habite. Ça, c'est le but. Pourquoi on est une famille, tous ensemble ? Pour former une demeure où l'Esprit de Dieu habite. Dieu vient demeurer au milieu de son peuple. Et c'est dans l'unité que Dieu il établit sa demeure. C'est intéressant de noter ça. Matthieu 18, verset 20. « Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est Jésus qui dit ça. On n'est pas fait pour être tout seul. Hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dans Genèse 2. Et parfois, je ne sais pas si vous avez déjà... J'ai eu l'occasion de parler parfois avec des gens qui avaient une foi, mais qui disaient « Non, mais moi, ma foi, je la vis tout seul. C'est juste... » une histoire entre Dieu et moi. Et j'avais envie un peu de casser le mythe du chrétien qui dit ça. Parce que parfois, on peut être tenté de dire ça, mais c'est aussi, je trouvais que c'est aussi un peu ce que la société voudrait voudrait, le modèle dans lequel elle voudrait qu'on rentre. Hein. On entend beaucoup la religion, c'est privé, on n'en parle pas, c'est ton histoire, on ne veut pas en entendre parler, c'est entre toi et Dieu. Oui, ça, personne ne peut te l'interdire, mais surtout ne partage pas. Et malgré nous, on peut un peu rentrer là-dedans. Et par rapport à ça, je voulais juste vous partager un témoignage cette semaine. Je fais mes courses dans un grand magasin, comme tout le monde. Enfin, presque comme tout le monde. Et je fais au drive. Vous savez, je fais mes courses sur Internet et je vais les récupérer. Et j'avais à cœur d'inviter la personne qui fait mes courses parce que j'ai une bonne, je m'entends bien avec cette personne et tout. Et puis, donc, j'ai donné une invitation pour venir au culte. Et puis, bon, il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Il était assez pressé et tout, mais il a été très surpris, il m'a dit « Mais moi, je suis communiste et athée, je ne viendrai pas. » Et puis, il est parti. Alors, j'étais un peu, ça m'a un peu fait bizarre sur le moment. Et je n'ai même pas eu le temps de réagir qu'il était déjà parti. Alors qu'il est hyper sympa, il m'aime beaucoup d'habitude. Il me dit « Ah, j'aime trop faire vos cours, je suis trop content quand c'est vous et tout. » Mais là, ah, et puis, ça m'a vachement... ah là là, j'ai l'impression de me prendre un seau d'eau sur la tête. Et j'étais très intimidée, en fait, après. Et je me disais, mais presque comme si je culpabilisais, je me disais, mais ah là là, j'ai fait quelque chose, j'aurais pas dû parler et tout. Puis après, je voulais inviter une autre personne, juste après. Et alors, j'étais intimidée et tout, je disais, oh non, non, mais comment je vais lui dire et tout. Et puis finalement, je l'ai invitée, et celle-là, elle m'a dit qu'elle viendrait, donc c'est super. Mais tout ça pour vous dire que parfois, je me suis rendu compte qu'on pouvait tellement être intimidé parce qu'on nous dit, on nous rabâche tellement, non, la foi c'est privé, la religion c'est privé, t'en parles pas, surtout pas en public. Et non, c'est pas vrai. Alors, on respecte les lois et tout, mais souvent, on est tellement intimidé, on a tellement peur, alors que la foi, ça, c'est quelque chose qui se partage, c'est pas quelque chose juste entre Dieu et moi. C'est quelque chose entre Dieu et moi, mais pas que, ça se manifeste concrètement. Et je voudrais vous lire ce passage de Jean 17, versets 21-23. « Je te demande qu'ils soient tous un. » C'est Jésus qui prie son Père avant de mourir. C'est comme c'est relaté dans Jean, quelques heures peut-être avant qu'il soit arrêté. « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Et à la lumière du passage juste avant qu'on a lu, je me disais, en fait c'est ça, c'est Dieu, il veut qu'on soit comme une famille pour pouvoir demeurer avec nous, quand il y a l'unité, quand il y a la famille, Dieu il vient et il demeure, il y a sa présence avec nous. Et quand il y a sa présence avec nous, ça amène le salut. Pour que le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. C'est fort ça, de réaliser ça. Quand on est une famille, quand on est unis, Dieu demeure là. Dieu demeure là. Et quand il demeure là, il y a son amour qui est manifesté à travers le salut. Alors pourquoi ça nous concerne, nous, en tant qu'Église, tout ce que je dis ? Alors j'ai cherché la définition, une des définitions qu'on peut donner au mot « famille ». Et je vais vous la lire, c'est très court. « Un groupe de personnes vivant ensemble, liées par le sang. » Et c'est ça qu'on est, ici. Hein ? On est un groupe de personnes vivant ensemble, alors on n'habite pas dans la même maison forcément, mais on vit des choses ensemble, on se retrouve régulièrement pour vivre des choses ensemble et on est liés par le sang. C'est fort de réaliser ça, on est liés par le sang de Jésus, les uns aux autres. On forme une famille. Romains 8, verset 15, « Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». On n'est plus tout seul, on s'inscrit dans la lignée divine. Et Dieu devient notre Père, Jésus est notre frère, et nous sommes frères et sœurs les uns avec les autres. Et vous savez, quand j'ai rencontré Mathieu, il y a toujours quelque chose qui, me faisait rire et en même temps je trouvais ça très beau, c'est qu'il faisait partie donc d'une bande d'amis d'enfance avec Olivier, avec Sam, avec d'autres amis de Nîmes, et tous ils s'appelaient mon frère, toujours. Ah mon frère, comment tu vas? Et même ma sœur encore qui habitait pas forcément avec moi, toujours quand elle les voyait, ah mon frère, ah mon frère. Et ils continuent, dès qu'ils se voient, ils s'appellent, ah salut mon frère, comment tu vas et tout. Mais c'est beau, c'est rigolo, mais c'est beau et c'est vrai, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Et c'est important de réaliser que notre adoption, quand on a été adopté, on change, ça nous donne une identité. Hein, ça, on en parle souvent, de l'identité de fils, de fille. Ça nous donne un statut et ça nous donne un héritage. Et ça change aussi notre lignée. Et quand je parle de lignée, je parle pas seulement de ce qui vient après nous, mais ce qui vient avant nous. Et par rapport à ça, je voulais vous partager un témoignage que j'ai entendu en février. On était en Suisse à une formation avec Mathieu et il y a une personne qui est venue témoigner qui avait été adoptée. Et il s'appelle, je vais l'appeler Henri. Henri. Et alors, il nous disait, en fait, moi, je suis née d'un adultère. Et ma mère devait avorter, puis finalement, au dernier moment, elle a renoncé. Elle a été, je crois, cachée dans un couvent ou je ne sais pas quoi. Elle m'a mis au monde et puis elle m'a mis à l'adoption. Et lui, il a été adopté par une famille chrétienne. Et puis plus tard, quand il était ado, il a voulu rechercher ses origines, savoir d'où il venait. Et il s'est rendu compte qu'en fait, sa mère biologique, était, quand elle l'a eue, elle avait 17 ans ou 18 ans, était très jeune. Et son père, lui, était marié, avait des enfants, et il était musulman. Et puis, il me semble bien même qu'il a été rencontré, il a retrouvé la trace de ses parents biologiques, qui n'avaient après... Enfin, c'était vraiment une aventure, et puis après, ils n'ont plus jamais eu de contact. Mais il nous avait fait un schéma sur un tableau, puis il nous disait, voyez, mon père biologique, c'était... Mohamed et mon grand-père c'était Mohamed et puis il disait mais là il a dessiné la croix et il a dit oui dans ma lignée il y a biologique c'est telle personne, je suis née dans ces circonstances là qui sont difficiles, douloureuses, mais là je peux mettre la croix et ça change tout parce que je suis dans la lignée de Jésus. Et c'était fort de réaliser ça, que Jésus, quand on devient chrétien, quand on lui donne notre vie, oui, ce qui vient après nous est changé, mais il y a aussi ce qui est derrière nous. On s'inscrit dans la lignée de Jésus. Ça efface pas toute notre histoire. Il y a des choses qui se sont passées, mais on est dans la lignée de Jésus. On a un héritage. Et vous savez, je crois que le nom de notre église Connect, c'est pas un hasard. Quand on a, je crois que c'est Mathieu qui a trouvé ce nom, et on voulait vraiment que ça reflète notre désir d'être connecté au Père et d'être connecté les uns avec les autres. Et j'ai écouté cette semaine, j'ai écouté plusieurs messages, pendant que je préparais ce message, et dont un d'une chercheuse américaine qui étudie les relations sociales. Alors, je crois qu'elle s'est convertie depuis, mais elle n'était pas chrétienne. Peut-être vous en avez entendu parler. Elle s'appelle Brené Brown. Et elle parlait dans un de ses messages qu'un des besoins primaires de tout être humain, c'est le besoin d'appartenance, le besoin d'appartenir à quelque chose, à un groupe. On a tous besoin de sentir qu'on appartient, qu'on a une place quelque part, qu'on s'inscrit dans un groupe, dans une famille, d'être intégré. Hein, c'est terrible, peut-être parfois on a tous expérimenté ça, je pense, de se sentir rejeté, de ne pas se sentir intégré parmi un groupe de personnes. C'est terrible cette sensation. Et le premier groupe auquel on appartient, c'est notre famille. Notre famille, papa, maman, frères et sœurs. Et l'appartenance à un groupe, alors... Ça va être un peu technique, là. Je fais un peu du vocabulaire, je ne sais pas, sociologique, je ne sais même pas quelle matière c'est, mais c'est juste pour vous expliquer là où je veux en venir. Ça va se faire par ce qu'on appelle le processus de socialisation. C'est-à-dire, on va être dans un groupe, par exemple, je nais dans une famille, et puis en étant à leur contact, je vais apprendre leurs normes, leurs valeurs, ce qu'ils aiment, et puis petit à petit, tout ce qu'ils me transmettent, je vais me l'approprier pour le vivre. Vous êtes d'accord ? Vous me suivez ? Mais ça s'est rendu possible que parce que d'abord, je suis adoptée, j'appartiens à cette famille. Hein ? Par exemple, imaginez, j'ai pris un exemple qui ne me ressemble pas du tout. Une équipe de foot. On aura beau jouer au foot, acheter le maillot de notre équipe préférée, s'entraîner toutes les semaines. Si on ne fait pas partie de l'équipe, ben, ça ne va pas servir à grand-chose. En tout cas, notre rêve de faire partie de cette équipe, il n'y a pas forcément de choses, qu'on l'intègre. C'est comme si on est un peu en parallèle. Donc, le processus de socialisation, d'abord, c'est important de se rappeler que c'est appartenir. D'abord, j'appartiens. Ensuite, une fois que j'appartiens, je crois. Je m'approprie les valeurs. Je m'approprie les valeurs, les normes, et ça devient mes références, ça devient mes repères. Et ensuite, j'adapte mon comportement. Et donc, voilà, je me conduis en fonction des valeurs, en fonction de ce que le groupe fait, en fonction de ce qu'il aime, etc. Donc l'ordre des choses, c'est d'abord j'appartiens, ensuite je crois et ensuite je me comporte. Et bien souvent, on fait les choses à l'envers. Surtout, parfois à l'église, avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, on va leur dire non, d'abord tu vas croire, et après, si tu crois et si tu te comportes bien, tu feras partie de la famille. C'est vrai ? Et ça m'a marqué de réaliser ça. J'étais mais oui, c'est vrai. Tellement souvent, on va dire non, d'abord, il faut que cette personne comprenne. Et puis, il faut qu'elle se comporte de telle manière. Et après, ensuite, elle pourra appartenir. Mais Dieu ne fait pas comme ça avec nous. Et puis, en plus, le résultat, c'est que, à mon avis, elles ne vont pas forcément avoir envie d'appartenir, si on prend les choses par ce bout-là. Et en réalité, on va commencer à se comporter comme des fils et des filles quand on va avoir la révélation de notre identité, qu'on est adopté dans la famille de Dieu. Et c'est là où ça devient concret pour nous, c'est que l'Église, c'est la famille de Dieu. Nous, on est la famille de Dieu. Alors, vous connaissez sans doute ce dicton qui dit « on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis hein ». On est ou on est adopté dans une famille que Dieu nous a choisie, où il a choisi de nous placer, et peut-être que pour certains, c'est une expérience douloureuse. Mais Dieu peut même racheter cela. Hein, ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu peut racheter et restaurer ce qui a été abîmé. Mais qu'on le veuille ou non, on arrive sur terre dans une famille. Et puis cette famille, bah, ça devient nos repères. C'est un peu comme une serre dans laquelle on est planté et dans laquelle on grandit. On fait nos premières expériences, nos premiers échecs, nos premières réussites. Et un endroit surtout où on est 100% nous-mêmes. Surtout en enfant, ado. Et quand j'écrivais ça, je me souvenais que parfois on ne se montre pas toujours sous le meilleur jour. Dans notre famille, on va être parfois flemmard ou se laisser un peu aller. Et même adulte, quand on revient chez papa et maman, on ne revient pas toujours sous notre meilleur jour. Enfin, parfois, moi, je me surprends. Voilà, je vais chez mes parents, c'est un peu pied sous la table. Je me déconnecte complètement de mon mode maman qui fait tout et tout. C'est agréable aussi, hein, faut savoir prendre du repos. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que parfois, on se sent proche, plus proche de personnes avec qui on n'a pas de lien de sang et parfois de membres de notre propre famille. Ça, c'est étrange, mais je pense qu'on l'expérimente tous. Et même, tout ça pour dire que même au sein de notre propre famille terrestre, les relations, c'est pas inné. Ça se travaille. ça se nourrit, ça s'entretient. Quand on vit ensemble, on n'a pas le choix, j'ai envie de dire. On vit avec, donc il faut arriver à s'entendre. Et par rapport à ça, j'ai la fâcheuse tendance à, parfois quand Mathieu m'énerve, j'ai envie qu'il comprenne par lui-même pourquoi il m'a énervée, donc j'ai pas envie de lui dire. Et c'est peut-être féminin, je sais pas. Mais je me rends bien compte que je peux pas faire durer ça éternellement parce que ça devient insupportable autant pour lui que pour moi. Donc il faut bien trouver un moyen de rétablir le contact. Hein. Quand on vit ensemble, on n'a pas le choix. Et moi, j'ai envie de vous dire, à l'église, c'est pareil. À l'église, soyons intentionnels par rapport à ça aussi. Ce n'est pas facile. Hein. Et c'est important de s'arrêter et de se demander qu'est-ce qu'on veut vivre, à quoi on veut que notre famille connecte, elle ressemble. Quelles sont les valeurs qu'on veut cultiver dans notre famille. Quand Dieu a créé la famille, c'était quoi son plan? Et c'est important de... Quand on a eu des expériences douloureuses, ça c'est valable dans n'importe quel domaine de notre vie, et quand on chantait « Tu es bon » tout à l'heure, j'y pensais. Quand on a fait des expériences douloureuses, surtout dans notre famille, c'est important de réaligner, alors de demander à Dieu voilà, de lui apporter ça, de se laisser guérir, restaurer dans ce qui a été abîmé, et puis de réaligner notre vision, notre façon de voir les choses à lui, son standard divin. Parce que parfois, on va cataloguer la famille selon notre expérience personnelle. Et c'est comme quand on chante « tu es bon Dieu ». Et il y a des fois où oui, c'est facile, on le voit concrètement, on manque de rien, on est béni. Mais dans les moments difficiles, et Olivier nous parle très souvent du décès de sa maman, et comme il a vu son papa proclamer la bonté de Dieu, qui ne dépendait pas des circonstances, mais c'était une vérité qu'on proclamait, qu'on ne voit pas forcément dans nos toujours, et c'est pareil pour la famille. C'est important de réaligner notre façon de voir les choses au standard divin. Et j'ai pensé à plusieurs, j'ai pensé à plusieurs valeurs. Je me suis dit, mais ça, moi j'ai envie qu'on vive ça à Connect. Pouvoir vivre la confiance. L'authenticité, Olivier nous en a parlé la semaine dernière. La vulnérabilité, la bienveillance, dans un contexte de sécurité, l'intimité, le courage, la compassion. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur la vulnérabilité, hein, qui est complémentaire avec l'authenticité. C'est très proche comme notion, mais j'ai écouté un message qui m'a beaucoup marqué sur la différence entre la transparence, alors c'est encore autre chose, et la vulnérabilité. La vulnérabilité, ça va se manifester par des actes. On peut être transparent avec tout le monde. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être vulnérable avec tout le monde. Hein. C'est comme on n'est pas, on va pas être très très avoir le même degré d'intimité avec toutes les personnes. Mais c'est important d'avoir quelques personnes avec qui on peut être vulnérable. Quand on est vulnérable, on va connecter avec nos émotions. On ne va pas mettre un filtre pour « je t'ouvre la porte de mon cœur, je te montre ce qui se passe, mais je ne ressens rien et je me protège. » Et c'est souvent juste peut-être avec une ou deux personnes dans votre vie que vous allez avoir cette relation-là, mais c'est important. Je vous encourage à vous poser la question. Est-ce qu'il y a des personnes auprès de qui je me sens vulnérable, auprès de qui je peux pleurer quand j'ai envie de pleurer, quand ça ne va pas, auprès de qui je peux vraiment même, j'ai envie de dire... dire des bêtises, dire des choses que après je vais regretter, mais je sais que je ne vais pas être jugée et je sais que la personne va m'aimer et m'accompagner. Et ça, ça conduit à l'intimité dans les relations. On veut prendre soin les uns des autres, on veut pouvoir être authentique dans l'honneur, dans l'encouragement, créer des relations de confiance et se rappeler qu'on a le droit de se tromper. Ça, je crois trop souvent dans nos sociétés, on ne se donne pas le droit à l'erreur. On veut tout réussir tout de suite. Hein, et puis on se juge fortement nous-mêmes. Si je prie pour cette personne et qu'elle n'est pas guérie, elle va dire « Ah, mais Dieu n'existe pas !» Combien de fois on se dit ça? On ne se donne jamais droit. Il faut que ce soit à 100%, tout le temps, 20 sur 20. Non, on veut être une famille où on peut se tromper. On a droit à l'erreur. Puis il y a la grâce et le pardon qui peuvent être manifestés. Parce que si on avait toujours raison, Si on avait tout le temps raison, qu'on avait toujours la bonne attitude, le pardon, la grâce ne pourraient pas être manifestés de manière concrète. Et ça coûte, hein ? Ça nous demande de nous mouiller, mais c'est tellement important et on veut pouvoir le vivre. Que notre amour soit manifeste les uns envers les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Le type de relation qu'on veut cultiver dans notre famille, c'est assurer les arrières de l'autre, même quand il n'est pas là. Toujours dans la relation, être pour l'autre, hein, se rappeler que Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous, même quand on est en désaccord, même quand on n'est pas d'accord sur quelque chose. Je suis pour toi, je ne suis pas contre toi. Même si on n'est pas d'accord, je suis pour toi et on va pouvoir régler ça ensemble. Et puis avoir un frère, une sœur qui va m'aider à me souvenir qui je suis quand je suis perdue, quand je m'égare, parce que ça nous arrive tous. Quelqu'un qui va me dire « Non, t'es une personne qui a beaucoup trop de valeur pour te comporter comme ça. » Qui va appeler la grandeur en moi. Et dans un des messages que j'écoutais, la personne disait « Ça m'énerve quand les gens ils disent « Je t'aime, mais... » On ne devrait pas dire ça. On ne devrait pas dire « je t'aime, mais ». Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire les choses, mais on devrait plutôt dire « je t'aime et ». Ça m'a marqué de dire « je t'aime et ». Et je crois que c'est vraiment un défi. Pardon, j'arrive pas à baisser ma page. Ça va être un défi pour nous en tant qu'Église, alors qu'on grandit, alors que... Des nouvelles personnes nous rejoignent, c'est une joie, un privilège de garder cette culture de famille qu'on veut cultiver. Et peut-être ça va prendre des formes différentes. Là, on est encore à un nombre où on peut être un peu tous en interaction les uns avec les autres. Mais c'est important de veiller à, peut-être dans des plus petits groupes, dans des plus petits contextes, à prendre soin les uns des autres. On ne pourra pas tous être tout le temps connectés, savoir tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Mais soyons vigilants et intentionnels pour avoir des moments Peut-être ça va être des périodes aussi, hein. Ça va être par des plus petits groupes, par certains moments où on va être plus proches peut-être les uns des autres pour pouvoir s'encourager. Et j'ai entendu une citation qui m'a marquée qui disait « Les gens pensent que la pire chose au monde, c'est d'être seul. » Mais ce n'est pas vrai. La pire chose au monde, c'est d'être avec des gens, mais de te sentir seul. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant parce que ça peut tellement vite arriver dans l'Église, mais hors de l'Église aussi, on le voit dans la société. Tellement de fois, on entend, surtout dans des périodes où on approche Noël, que les gens sont seuls. Mais si on regarde concrètement, physiquement, c'est très peu vrai. À part si une personne vit vraiment en ermite, en haut d'une montagne où il n'y a vraiment aucun être humain, mais on est quand même en contact avec des personnes dans la vie de tous les jours, même si c'est peut-être une personne par jour. Et pourtant, il y a quand même ce sentiment de solitude qui est là, qui est très présent. Et beaucoup de personnes se sentent seules parce qu'elles ont des relations finalement très en surface, superficielles. Avec les autres, même dans l'indifférence parfois. Et c'est pour ça que j'ai envie de nous challenger. Voilà, soyons vigilants. Alors on peut être très extraverti et tout, mais on peut être aussi très introverti. Et puis, peu importe à la limite, mais soyons vigilants à prendre soin les uns des autres. Et je me souviens quand on était à Bedford, pendant il y a quelques années, j'étais enceinte de Rose et puis j'étais vraiment dans une période où c'était pas facile pour moi. Et je me souviens, un jour, j'ai trouvé des Kinder Bueno devant ma porte avec un petit mot « Régale-toi, passe une super journée ». Mais c'était pas signé. Mais ça m'a tellement touchée de voir « Oh, il y a quelqu'un qui a vu que, oh là là, j'avais un petit coup de mou, hop, juste des petits chocolats, ça remonte toujours le moral ». Mais au-delà de ça, c'était l'attention qui m'a touchée. Hein, ça peut être manifesté par des choses toutes simples comme ça, mais ça touche profondément. Et à Connect, on veut être une famille où chacun a sa place. Et avec les petits, les grands, on rigole souvent parce qu'on dit on est 40 adultes, 40 enfants, et c'est vrai. Mais on a besoin les uns des autres. Et on a besoin aussi de... Je partageais ça avec les Christmas à la conférence. On a besoin d'avoir des personnes, on prie pour avoir des personnes plus âgées aussi qui nous rejoignent, qui soient là, pour, parce qu'on a besoin de toutes les générations, hein, comme disait Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a besoin de vivre cette dimension intergénérationnelle dans l'Église. C'est vraiment un désir qu'on a, que chacun trouve sa place. Et on prie pour ça, pour que des gens plus mûrs, des papas et des mamans, des papiers et des mamies nous adoptent et qu'on les, on les adoptera avec joie. Et on, de la même façon, on croit que les enfants ont leur place ici, ont des choses à vivre. Et vous savez, souvent, on insiste pour qu'ils restent, pour qu'ils vivent la louange, en tout cas en partie avec nous, parce qu'on a vraiment à cœur de vivre ça avec eux en famille. Et puis qu'on croit qu'eux, ils peuvent aussi expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Ils n'ont pas à attendre d'être adultes. Et vous savez, je pense que l'histoire de Connect, quand elle a commencé, donc on était à Bedford avec les Sarkis, et ça a commencé par une amitié. Avant d'être dans des projets, on savait plus ou moins, avec Mathieu, qu'on serait appelé à être engagé, en tout cas en responsabilité dans une église, mais on ne savait pas du tout quelle forme ça prendrait. Et quand ça a démarré, c'est pas parti de « oui, on veut faire des projets ensemble », non, c'est parti d'une amitié réelle qui était testée, durable et qui continue. Et on a traversé des hauts et des bas, mais je crois vraiment que c'est une force et c'est pas un hasard. C'est un peu notre héritage, hein. On est une jeune église, mais on a déjà un bel héritage. Et puis ça continue, hein. On a des amis qui nous ont rejoints, des nouveaux amis qu'on a accueillis et avec qui on est heureux de nouer des relations. Et ça comporte des défis parfois, je ne sais plus avec qui j'en parlais, parce qu'on se connaît très bien, parce que c'est un peu comme avec la famille, parfois on va un peu se laisser aller, hein. Et on en rigole souvent avec les Sarkis ou... Voilà, on ne va pas forcément prendre des pincettes parce qu'on sait qu'on est à la maison entre nous et c'est chouette. Et en même temps, ça comporte aussi des défis. Et parfois même, j'ai envie de dire, ça coûte parce qu'il faut se mouiller. Et même parfois, moi qui ai horreur du conflit, je me disais, ah, mais on ne pourrait pas être dans des relations un peu, vous savez, travail et puis voilà. Non, parce que là, il y a les émotions qui sont engagées, donc ça coûte, mais c'est tellement beau ce qui ressort de là. Et on fait souvent référence à un week-end qu'on a passé ensemble avec les Sarkis où on avait des choses douloureuses à se dire. On a pu se dire les choses, mais moi, je me souviens, oh là là, ça faisait mal sur le moment, mais après, qu'est-ce qu'on a pu on a pu se demander pardon, on a pu prier les uns pour les autres, on a pu restaurer notre amitié. Mais il y a des fruits, il y a encore des fruits qui découlent de ces moments-là. Quel privilège. Et j'avais juste à cœur, je vais m'arrêter là, j'avais juste à cœur pour finir, qu'on puisse simplement se lever, je vais vous proposer, et puis qu'on puisse se donner la main. Et j'avais à cœur de prier pour qu'on vive vraiment, on soit intentionnel pour vivre cette valeur de la famille. Parce qu'on est une grande famille, on est une belle famille. On est une famille à Connect, mais même au-delà, hein, avec toutes les églises de Montélimar, les chrétiens. Amen. Eh bien, merci Seigneur. Merci Seigneur pour le privilège d'appartenir à ta famille. Merci parce que grâce à toi Jésus, on est frères et sœurs les uns avec les autres. Merci pour ton amour, papa, pour ton amour de père pour tes enfants. Et je te prie vraiment Seigneur de nous garder unis les uns aux autres, de nous garder proches les uns les autres Seigneur. Que Seigneur, alors que les gens qui ne te connaissent pas viennent ici, Seigneur, ils puissent dire waouh, mais Seigneur, je vois que tu es là, je vois ta présence et qu'ils puissent expérimenter cet amour que tu nous donnes, Seigneur. Vraiment, je te prie de nous garder en tant qu'Église pour qu'on reste toujours dans cette unité, dans cette confiance, Seigneur, dans cette vulnérabilité et qu'on soit intentionnel pour prendre soin les uns des autres, Seigneur. Ah, merci, Papa. Merci papa, merci Jésus pour le privilège qu'on a de t'appeler notre frère Seigneur et que ton esprit, cet esprit de famille se répande maintenant dans les cœurs de chacun ici. Merci, Merci pour ton Église. Merci pour l'Église, la famille qu'on forme, Seigneur. Je prie pour des relations de frères et de sœurs concrètes, Seigneur. Pas juste dans les paroles, mais que ça soit manifesté par des actions, Seigneur. Par des actions de confiance, de bonté, par des relations proches, Seigneur. Par de la vulnérabilité. Seigneur, que ça reste pas des mots, mais que ton amour soit manifesté parmi nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à vivre la famille comme toi, tu l'as créé, Seigneur, comme toi, tu l'as prévu. Merci, Papa. Amen. Amen.
Merci, Emmanuel. Waouh, que c'est beau.